Toujours à propos de l'exécution du contrat, je suis avec Philippe Dupichot et nous voyons les possibilités offertes aux créanciers insatisfaits, c'est-à-dire les possibilités offertes à l'une des parties au contrat qui n'obtient pas satisfaction, qui n'obtient pas la prestation attendue. Alors, nous avons un texte important issu de la réforme qui est l'article 1217 nouveau du Code civil. Nous allons voir ce texte ensemble bientôt. C'est un texte qui dresse une liste. Alors, initialement, le texte visait les remède et désormais il ne vise plus que les sanctions. Alors on s'était dit que, mon cher Philippe, on s'était dit que remède c'était quelque chose qui était plus, comment dire cela, plus dynamique, on apportait des solutions à des problèmes. Sanctions, on retombe un peu dans des questions qui sont, voilà, c'est sanctions, on est dans une loi qui vient sanctionner, c'est, voilà, ça fait moins dynamique.
Effectivement, la version présentée dans le projet est soumise à consultation. C'était celle des remèdes, les remèdes qui renvoient à la common law, aux remedies. Et aujourd'hui, ce que l'on peut retenir de cet article 1217, c'est que finalement, il offre, ce qui n'existe pas du tout dans le Code civil actuel, véritablement une carte aux créanciers insatisfaits, carte dans laquelle il va pouvoir choisir pour satisfaire justement la prestation qu'il n'a pas obtenue ou qu'il n'a obtenue qu'en partie, des remèdes qui, lorsqu'ils seront compatibles, et la plupart d'entre eux le seront, pourront être cumulés, les dommages-intérêts étant compatibles avec tous les autres remèdes que nous allons tout de suite examiner.
Voilà, alors nous voyons cet article 1217, le créancier insatisfait peut refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, puis on nous dit qu'il peut encore solliciter une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat ou demander réparation des conséquences de l'inexécution. Et le texte indique, dans une partie qui n'est pas reproduite, qu'effectivement, les, alors non plus remèdes, mais les sanctions compatibles entre elles peuvent être cumulées. Alors si nous reprenons ces différentes sanctions, j'allais dire remèdes, est-ce qu'on a beaucoup de nouveautés là-dedans, Philippe ?
Alors, il y a du nouveau et il y a du moins nouveau. Pour une large part, on assiste ici à une consolidation de sanctions qui sont déjà connues. Par exemple, l'exception d'une exécution, qui est bien connue, que l'on trouve en droit de la vente, par exemple, eh bien, fait son entrée dans la théorie générale du Code civil, avec sa condition principale, c'est qu'il faut qu'il y ait une gravité suffisante. De la même façon, fait encore office de consolidation, la réception de la jurisprudence Tocqueville de la première chambre civile du 13 octobre 1998, qui, rappelons-le, permet à l'une des parties de résoudre le contrat à ses risques et périls. C'est une consolidation, mais la Cour de cassation ne l'avait pas dit et le législateur le dit. Il faudra tout de même prévenir l'autre partie pour qu'elle ait l'équivalent d'une cure période pour s'amender.
C'est pour ça que le texte dit d'ailleurs de manière très large qu'une partie peut provoquer la résolution du contrat. On ne nous dit pas peut demander au juge, exactement, ou peut décider elle-même ou peut faire jouer une clause résolutoire. C'est voilà, provoquer la résolution du contrat.
Elle la provoque et si jamais il y a contestation, le juge ne pourra que se contenter de remarquer que la résolution faite au risque et péril est intervenue antérieurement ou n'est pas intervenue. Et on voit bien que c'est bien ce fait générateur de notification qui va produire la résolution au risque et péril du contractant. Alors, on a de la consolidation, mais on a également des généralisations. Et là, je crois qu'il faut penser à la sanction notamment de la réduction du prix, qui est une sanction qui est bien connue en matière de vente commerciale, sous le nom de réfaction, et qui, suivant un mouvement que l'on observe beaucoup dans cette ordonnance du 10 février 2016, remonte du droit spécial de la vente vers le droit commun, et je crois qu'on va en dire quelques mots, Bruno.
Absolument. Alors, c'est l'article 1223 qui nous dit « Le créancier peut, après mise en demeure, accepter une exécution imparfaite du contrat et solliciter une réduction proportionnelle du prix. S'il n'a pas encore payé, le créancier notifie sa décision de réduire le prix dans les meilleurs délais. » Donc, prenons un exemple très simple, mais imaginons que, eh bien, on demande à un professionnel de nous construire un bien, je sais pas, une table, par exemple, et la table ne nous satisfait pas. À ce moment-là, on va pouvoir refuser de payer le prix qui était le prix prévu, si la prestation n'est pas la prestation attendue, la prestation convenue.
Effectivement, c'est l'exemple d'ailleurs qui est donné par le gouvernement dans le communiqué de presse qui accompagne la réforme. Je fais installer une cuisine chez moi et un plan de travail. Ce plan de travail ne me donne pas entière satisfaction, mais je n'ai pas envie de demander la réinstallation complète de la cuisine. Eh bien, je peux, unilatéralement, et on retrouve ici le pouvoir de la volonté unilatérale, décider de réduire le prix que je vais offrir à l'installateur de cuisine, là encore, sous réserve évidemment d'un contrôle ultérieur devant le juge.
Oui, parce que je peux décider unilatéralement, mais comme le texte dit « solliciter une réduction du prix », enfin, je décide, mais il faut quand même que je demande et que l'autre l'accepte.
Alors, il va l'accepter de fait si on ne va pas porter l'affaire devant les tribunaux, mais effectivement, ce point n'est pas tout à fait clair. Je crois que la rédaction est un peu ambivalente, puisque le texte nous dit « le créancier peut réduire le prix », comme s'il pouvait le faire unilatéralement, et tantôt, on a plus le sentiment qu'il faut mettre en demeure et solliciter cette réduction. Il y a une ambivalence, je crois, que la jurisprudence devra éclaircir.
Voilà. Et tel que le texte est écrit, on a l'impression que si je paye tout de suite l'intégralité, je ne pourrai plus solliciter une réduction du prix.
Effectivement, c'est le sentiment que l'on a.
Sauf à faire une action en responsabilité, voilà, mais ce n'est plus la même chose, ce n'est plus le même remède. Et quand on parle de remèdes incompatibles entre eux, c'est vrai qu'on pourrait prendre l'exemple du même créancier qui, en même temps, demanderait la résolution du contrat et l'exécution forcée du contrat. Dans cette hypothèse, on aurait des sanctions ou des remèdes, décidément, qui seraient incompatibles entre eux. Donc, nous voyons qu'avec cet article 1217 nouveau, nous avons effectivement, comme tu l'as bien dit, une carte des solutions offertes aux créanciers insatisfaits qui apparaît dans le Code civil d'une manière qui est à la fois claire et avec des solutions qui sont, pour certaines d'entre elles, nouvelles et dynamiques.
Et notamment, comme solution nouvelle, on peut également mentionner, même si je crois qu'on y reviendra ultérieurement, l'exception d'une exécution par anticipation, cette fois, qui fait son entrée dans le Code civil, où il va être possible de suspendre sa prestation lorsque l'on a acquis la conviction que l'autre partie, à l'échéance, n'exécutera pas la sienne. Et là, c'est une véritable innovation. Je crois que l'idée est que time is money, qu'il faut gagner du temps, et il ne sert à rien d'exécuter à découvert lorsqu'on a la certitude que l'autre partie ne pourra pas s'exécuter à l'échéance. Je crois que c'est une sanction ou un remède tout à fait intéressant, tout à fait nouveau. Plus nouveau que la consécration du droit à l'exécution forcée en nature, qui finalement est la réception d'une jurisprudence qui, depuis des décennies, a gommé l'article 1142 du Code civil, article 1142, au terme duquel toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommage-intérêt. Le droit a été largement revu par la Cour de cassation. Pour la Cour de cassation, ce qui est dit est dit, ce qui est dit est dû, pour reprendre une formule de Denis Mazot. On a un droit à l'exécution forcée en nature, mais avec tout de même une innovation dans la réforme, c'est que ce droit à l'exécution forcée en nature cède lorsqu'il y a disproportion entre le droit de demander l'exécution en nature et l'intérêt que cela représente pour le créancier et son coût pour le débiteur. Là, c'est un tempérament tout de même par rapport à la jurisprudence actuelle.
D'accord. En synthèse, on peut bien dire, du coup, et on retrouve un des objectifs de la réforme, que notre droit devient plus efficace et plus attractif.
Je crois qu'on peut le dire, oui.
Merci beaucoup, Philippe. Merci.